Dans le parcours que je vous propose ce matin, j'aimerais partir d'un texte qui se trouve au début de l'évangile de Jean. Je lis Jean chapitre 1, versets 35 à 51. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent « Rabbi, ce qui se traduit maître, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit Christ ». Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre ». Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph ». Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Nous trouvons dans ce récit une série de rencontres en cascade, les unes donc à la suite des autres. Il y a tout d'abord deux disciples de Jean-Baptiste qui, après que leur maître ait dit de Jésus « Voici l'agneau de Dieu », se mettent à le suivre. Un de ces deux disciples était André, frère de Simon-Pierre. Il trouve son frère et lui annonce qu'ils ont trouvé le Messie. André conduit alors Simon-Pierre à Jésus, qui lui donne le nom de Céphas. Le lendemain, en route vers la Galilée, Jésus rencontre un certain Philippe, qui était de la même ville qu'André et Pierre, et il invite à le suivre. Puis c'est Philippe qui va trouver Nathanaël, et lui dit qu'ils ont trouvé celui dont parle l'Écriture, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. L'évocation de Nazareth fait réagir Nathanaël, qui s'exclame alors, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Pourquoi cette exclamation ? Plusieurs pistes sont possibles. La plus vraisemblable est peut-être parce qu'aucune prophétie n'assignait à Nazareth un rôle si important. Nathanaël, qui était un homme droit, connaissait les Écritures et savait très certainement que le Messie devait naître à Bethléem, pas à Nazareth. Quoi qu'il en soit, nous constatons que Nathanaël a clairement une idée préconçue, arrêtée sur la question. Après ces rencontres en cascade, nous arrivons maintenant au verset qui va amorcer notre parcours. Il s'agit de la réponse de Philippe à Nathanaël. Au verset 47, Philippe lui dit « Viens et vois ». C'est ainsi que Philippe amène Nathanaël à Jésus qui discerne en lui un homme droit. Le dialogue qui suit entre Jésus et Nathanaël va amener celui-ci à comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, le roi d'Israël, ce qui, à ce stade des évangiles, n'est pas rien. Nous avons de bonnes raisons de penser que Nathanaël est devenu un des disciples et apôtres de Jésus. En effet, son nom apparaît avec ceux d'autres disciples à la fin de l'évangile de Jean au chapitre 21, verset 2. Il est vrai aussi que son nom manque dans les autres listes de disciples, mais beaucoup pensent que Barthélemy, souvent placé à côté de Philippe dans ces listes, est en réalité Nathanaël. Viens et vois. Ce sont donc ces trois mots de Philippe à Nathanaël qui ont retenu mon attention pour ce matin. Trois mots qui font écho à ce que André a fait pour Pierre quand il l'a conduit à Jésus. Venir et voir. Venir pour voir, pour se faire une idée par soi-même, pour peut-être sortir des clichés et pour dépasser ainsi les idées toutes faites. Le disciple de Jésus est un témoin. Il est appelé à témoigner, témoigner de sa foi, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, du don de Dieu qui se trouve en Jésus. Cette eau vive dont parle Jésus à la Samaritaine et dont nous avons récemment discuté en réunion de quartier. Si le témoignage, quelle qu'en soit la teneur, est généralement le point de départ incontournable d'un chemin de foi, il arrive un moment dans la discussion, dans le dialogue établi, où les mots « viens et vois » font sens, peuvent faire sens. Parfois, dans le témoignage, on finit par manquer d'arguments. Ou alors, tout simplement, on tourne en rond. Chacun campe sur ses positions et défend ses convictions avec les mêmes arguments déjà utilisés. Le dialogue s'enlise et devient même contre-productif. Il est alors sans doute temps d'inviter à venir voir, à venir entendre, à venir découvrir, à venir vivre, à venir se rendre compte par soi-même. Mais venir et voir quoi ou qui? Dans notre passage, il s'agissait de Jésus. Mais Jésus n'est plus là physiquement. Par contre, son corps, l'Église, dont il est la tête, est là et bien visible. Alors, bien sûr, pour l'heure, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien ou pas grand-chose à voir, car les activités de l'Église, et en particulier le culte, sont encore suspendus. Mais bientôt, très bientôt, je l'espère, nous pourrons à nouveau nous réunir, nous pourrons à nouveau nous retrouver dans la présence du Seigneur et dans la joie de la communion fraternelle. Nous pourrons à nouveau adresser pleinement cette invitation, « Viens et vois ». Une petite parenthèse pour dire qu'il y a quand même actuellement des choses à voir et à entendre. Je peux, par exemple, inviter à découvrir le site internet de l'Église. Je peux inviter à écouter des prédications en ligne. Je peux même inviter à voir des cultes enregistrés en vidéo. C'est loin d'être l'idéal, mais ce n'est pas rien. Et cela nous permet, si nous avons des contacts, de pouvoir dire, même actuellement, « Viens et vois » ou « Venez et voyez ». Mais bientôt donc, nous pourrons à nouveau pleinement inviter à venir voir. Et c'est bien évidemment au culte que je pense en particulier. Le culte qui est pour moi la porte d'entrée évidente dans l'Église, la vitrine de l'Église. C'est le dimanche matin, avant, pendant et après le culte que nous vivons quantitativement et qualitativement une grande partie de la vie de l'Église. Le dimanche, c'est un concentré de ce qu'est l'Église, avec la présence du plus grand nombre, avec toutes les générations qui cohabitent, avec de l'enseignement pour les adultes et pour les enfants, avec l'adoration et la louange, avec la prière, avec la communion fraternelle, avec le partage, avec des émotions, avec la présence de Dieu au milieu de son peuple. Oui, c'est pour le dimanche matin en particulier qu'il faut dire « viens et vois ». Bien sûr, rien n'est parfait ici-bas, pas même chez nous. Cette réalité peut peut-être nous bloquer. Nous pouvons avoir peur que les gens voient telle situation, tel dysfonctionnement ou telle lacune. Nous pouvons même éprouver de la gêne face à certaines situations. Mais en fait, toutes ces raisons sont de mauvaises raisons. Car ce que les gens veulent, c'est de l'authenticité, pas de la perfection. Car ce qui touche les gens, ce n'est pas que tout soit parfait, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agira dans leur cœur, malgré les imperfections. Bien sûr, il faut que nos vies d'Église, nos cultes en particulier, soient accessibles, que nous intégrions le fait que des personnes de l'extérieur sont susceptibles de nous visiter, nous visitent. Il faut donc au maximum proscrire, par exemple, le patois de Canaan, c'est-à-dire un langage chrétien que seuls les initiés comprennent, pour adopter un langage compréhensible par nos contemporains. Il faut que nous acceptions de sortir de notre zone de confort, de nos cercles relationnels, pour aller vers le visiteur, trop souvent seul, tout seul, à la fin du culte. L'accessibilité dans l'Église, ce n'est pas qu'une question de rampe pour personnes à mobilité réduite. C'est avant tout une prise de conscience, c'est une attitude, c'est une disponibilité, c'est une priorité. Tout ce que nous venons de dire relève d'une certaine manière du bon sens, et c'est déjà pas mal. Mais y a-t-il d'autres arguments à faire valoir que simplement ceux du bon sens? La réponse est oui. Et j'aimerais considérer brièvement deux passages qui nous font comprendre qu'il y a des choses qui passent quand l'Église se rassemble, quand l'amour de Dieu et du prochain se manifeste dans l'Église, quand l'unité de l'Église est visible. Mais encore faut-il qu'il y ait des personnes en dehors de la foi pour le voir, des personnes qu'il faut inviter à venir et voir. Le premier texte se trouve dans Jean 13, versets 34 et 35. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Qu'est-ce qui nous identifie indubitablement comme disciples de Jésus? Jésus souligne ici que c'est notre amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Notre amour qui doit être à l'image de celui du Christ. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, » dit Jésus. « Comme je vous ai aimé, » c'est-à-dire de façon désintéressée, par exemple. C'est-à-dire en acceptant l'autre tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. C'est-à-dire en accordant mon pardon à celui qui se repent. C'est-à-dire en donnant, en se donnant pour les autres, ou en plaçant les autres au-dessus de soi-même. Comme le dit l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 4, « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cet amour, même si c'est toujours de façon imparfaite, est visible dans l'Église. Et c'est là que ceux qui ne croient pas peuvent le voir et être interpellés. Mais encore faut-il qu'ils viennent pour voir. Mais encore faut-il que nous vivions vraiment cela dans l'Église. Est-ce le cas ? Est-ce que j'estime les autres supérieurs à moi-même ? Est-ce que je considère aussi les intérêts des autres ou seulement les miens ? Est-ce que je parle à tout le monde ou seulement à certains ? Est-ce que je me repens quand j'ai manqué d'amour ? Est-ce que je demande pardon à celui que j'ai blessé ? Est-ce que je pardonne quand mon frère, ma sœur se repent ? Est-ce que mon cœur est plein de jugement ou alors de bienveillance à l'égard des autres ? Nous pourrions poursuivre avec toutes sortes de questions qui nous interpellent sur la manière dont nous vivons l'Église. Une manière importante pour nous, pour notre obéissance à Dieu, mais aussi pour notre témoignage, pour la crédibilité de notre témoignage. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi nous devons chérir l'Église. Nous devons chérir la communion fraternelle et y mettre tous nos efforts, car c'est un des moyens divinement choisis pour convaincre ceux qui sont en recherche et que nous avons invités à venir voir, ou simplement que Dieu a conduit à venir voir. Le deuxième texte se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, versets 22 et 23. Ce texte se trouve dans une prière de Jésus. Jésus qui prie d'abord pour lui-même, puis qui prie pour ses disciples. Et les versets qui nous intéressent sont dans cette deuxième partie. Je lis donc les versets 22 et 23. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Que dit Jésus ici? Il dit que c'est notre unité, qui est à l'image de celle qui existe entre le Père et le Fils, qui convainc le monde que Dieu a envoyé Jésus et qu'il nous aime comme il a aimé son Fils. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'unité, notre unité, de quoi s'agit-il? L'erreur souvent commise par les chrétiens, c'est de penser que nous devons produire cette unité chrétienne. Mais en réalité, notre unité est un don de Dieu que nous serions bien incapables de générer par nous-mêmes. Notre unité vient de l'Esprit de Dieu en nous. C'est lui qui nous unit, c'est lui notre lien. Nous ne devons donc pas produire l'unité, mais par contre, nous devons la préserver. Mettre tout en œuvre pour la conserver, pour la chérir, pour la garder. L'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens au chapitre 4, verset 3, dit ceci. « Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il est clair dans ce texte que l'unité et l'amour sont liés. L'un ne peut aller sans l'autre. L'amour sans unité ou l'unité sans amour ne sont qu'hypocrisie. Vous avez noté que l'apôtre dit « Efforcez-vous ». Conserver l'unité demande des efforts. Il y a des obstacles, des écueils. Ça ne se fait pas tout seul. Et puis, il y a surtout la chair qui œuvre en chacun de nous dans le sens opposé. La chair, c'est notre nature pécheresse. C'est ce qui, en nous, nous pousse à tourner le dos à Dieu. C'est ce qui nous pousse à lui désobéir. Dans Galates, chapitre 5, là où l'apôtre Paul parle des œuvres de la chair, il est frappant de constater que beaucoup de celles qui sont citées ont quelque chose à voir avec le relationnel, donc avec la communion fraternelle. En fait, les œuvres de la chair mettent à mal tout particulièrement l'unité que produit l'Esprit Saint en nous et parmi nous. Je lis Galates 5, versets 16 à 21. Je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris. Voilà, entre autres, ce que produit la chair quand nous la laissons agir dans nos relations, quelles qu'elles soient, et c'est bien évidemment vrai dans l'Église. Quelle est la solution? Comment conserver l'unité de l'Esprit? La réponse est dans notre texte des Galates, « En marchant par l'Esprit », dit Paul. Et ainsi, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, en faisant donc le choix d'obéir à Dieu plutôt qu'à nos penchants mauvais. Mais j'aimerais revenir un instant au texte d'Éphésiens 4, où il est question de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, dit Paul. Par le lien de la paix. La paix nous est présentée ici comme le vecteur qui favorise, qui permet à l'unité de se manifester, qui nous permet de la préserver. C'est pour cela, entre autres, que nous devons être des artisans de paix et mettre tout en œuvre pour vivre la paix dans l'Église. C'est choisir de faire passer le bien commun avant le bien, par exemple. C'est par exemple accepter le défaut de l'autre qui m'agace. C'est par exemple choisir de ne pas aborder tel ou tel sujet polémique. C'est par exemple ne pas répéter le ragot que j'ai entendu. Nous pourrions multiplier les exemples. Oui, choisir la paix, c'est valoriser, c'est choisir de valoriser ce qui est important pour la communion fraternelle et pas forcément pour moi. Il y a ainsi parfois des sacrifices à faire. Mais c'est pour l'intérêt commun, pour le bien commun, pour la paix, pour conserver l'unité de l'esprit par laquelle les non-croyants que nous invitons dans l'Église seront convaincus que Dieu a envoyé son Fils et qu'il nous aime comme il l'a aimé. C'est donc la façon dont nous vivons ensemble. La façon dont nous gérons nos différences, la façon dont nous réglons nos problèmes avec la repentance et le pardon, la façon dont nous vivons et préservons l'unité de l'esprit dont Dieu va se servir pour toucher les cœurs et convaincre ceux qui ne croient pas encore que Dieu a envoyé Jésus et qu'il nous aime comme il a aimé. Mais pour cela, il faut que des gens viennent et voient ce qui se passe dans l'Église. Il faut aussi et surtout que nous vivions l'Église de manière cohérente avec notre foi et avec ce que Dieu attend de nous. Combien nous devons chérir l'Église et veiller à la paix et à l'harmonie entre nous. La crédibilité du message de l'Évangile en dépend. Le salut de certains en dépend. J'aimerais terminer cette réflexion, ce parcours, en raccrochant ce que nous avons dit à la fin du texte que nous avons étudié ces derniers jours en groupe de quartier. Il s'agit de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Dans ce texte, Jésus amène la femme samaritaine à comprendre qu'il est le Messie attendu. Et que fait cette femme ensuite ? Elle rend témoignage aux gens de son village. Je lis Jean chapitre 4, versets 28 et 29. La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens : « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Et puis je lis un peu plus loin au verset 39. « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est donc le témoignage de la femme samaritaine qui amorce le processus qui va conduire certaines personnes de son village à la foi en Jésus. Mais ce que j'aimerais souligner ici, c'est surtout que cette femme ne s'est pas contentée de témoigner, elle a aussi invité à venir voir. Verset 29, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Et que s'est-il passé après qu'ils soient venus voir ? Verset 39, « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. » Après avoir été invités à venir voir, ils ont cru au point de pouvoir dire, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Ils croient maintenant par eux-mêmes. Ils avaient d'abord entendu le message de la femme samaritaine, puis ils sont allés voir, ils ont entendu par eux-mêmes. Jésus est resté 2 jours, 2 jours pendant lesquels ils ont certainement pu poser toutes leurs questions, et finalement, ils pouvaient dire qu'ils croyaient par eux-mêmes, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Chers amis, quelle belle illustration de tout ce que nous avons dit ce matin, et aussi quel beau défi qui nous est proposé ce matin. L'évangélisation par le témoignage personnel est la responsabilité de chaque disciple de Jésus. Et je dirais même que c'est essentiellement cela, la véritable évangélisation. Sommes-nous prêts à relever le défi ? Sommes-nous prêts à sortir de notre zone de confort pour témoigner, pour inviter à venir voir ? Pour accueillir ceux qui viennent. Si nous le faisons, je suis persuadé que nous verrons des hommes et des femmes se tourner vers Dieu, car sa parole est vraie. Que le Seigneur nous aide chacun à relever ce défi. Pourquoi ne pas demander à Dieu de nous aider dans ce domaine ? Pourquoi ne pas nous fixer l'objectif d'inviter chacun, une personne, à venir voir avant la fin de l'année ? Si nous le faisons, nous verrons Dieu se manifester puissamment au milieu de nous.